vous intéresser à l'histoire.
Archive.
Micro ouvert.
Micro ouvert à la ville de Prague et à Colette Pelletier, qui est partie pendant les vacances de Toussaint avec sa famille faire un petit voyage là-bas pendant une semaine. Alors Colette, tout d'abord, la plupart des auditeurs doivent se dire « Oh mais c'est dur, on prend pas comme ça la décision de partir en voyage à Prague, c'est loin, ça fait un peu plus de 1500 ou 2000 kilomètres. »
Oui, ça fait 1600 kilomètres à peu près.
Voilà, donc... Allez, donc 3002 aller-retour, quand on a une semaine, etc. Alors, comment ça s'est passé? Vous avez décidé brusquement, en famille, tiens, on a besoin de s'aérer, de réaliser un rêve et on part à Prague.
Oui, enfin bon, au début, la décision n'a pas été prise en famille. C'est une décision que j'ai prise moi, parce qu'on avait d'autres projets pour les vacances de la Toussaint et ça n'a pas pu se faire. Donc, je me suis dit, puisqu'on ne peut pas aller ailleurs, pourquoi pas Prague?
C'était un rêve
Pour moi, oui, c'était un rêve depuis pas mal de temps. Ouais, c'était un rêve basé sur des raisons qui sont peut-être irrationnelles d'ailleurs. Parce que c'est vrai que pour moi, Prague, ça représentait tout un tas de choses. Bon, le printemps de Prague qui s'est déroulé, bon, moi j'étais adolescente et c'est vrai que ça m'avait beaucoup frappée. Ces gens qui luttaient contre la dictature communiste, les gens... contre les chars russes, etc. Bon, mais ça, c'est un peu du domaine de l'irrationnel, d'une espèce d'image qu'on se fait d'une ville, d'un pays. C'est vrai que plus récemment, on a suivi la révolution de velours. Et c'est vrai que moi, j'ai développé une grande admiration pour Václav Havel à travers des choses que j'ai lues, qu'il a écrites. Bon, moi, évidemment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il, comme personne exactement ce qu'il fait, etc., si c'est... comment on pourrait le juger, mais à travers ses écrits, moi, c'est quelqu'un que je trouve assez exceptionnel. Bon, ça aussi, c'est pas une raison très réaliste, parce que je suis pas allée à Prague pour rencontrer Václav Havel, évidemment, mais ça fait partie un peu du rêve, une espèce d'image qu'on se construit sur un pays ou sur une ville, et qui fait que pendant longtemps, on dit, tiens, j'aimerais bien aller là. Et bon, c'est vrai que récemment, c'est devenu beaucoup plus facile d'aller dans les pays de l'Est, facile pour nous, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez dit, nous, on voyage en famille. Donc, on aime avec notre voiture et on aime bien pouvoir aller se déplacer comme on veut librement. Bon, et avant, c'était peut-être possible d'aller en Tchécoslovaquie, mais récemment, c'est devenu très facile. Quoi. On voyage en Tchécoslovaquie, nous, on y est allé exactement comme on irait en Espagne, en Italie, on n'a eu aucun problème.
Voilà, on a tendance à dire Tchécoslovaquie alors qu'il y a deux pays maintenant.
Oui, maintenant, donc Prague, c'est la capitale de la République tchèque, voilà, puisque depuis le début de l'année, il y a deux pays.
Est-ce qu'on le sent, ça? Est-ce que vous vous en êtes rendu compte en voyage? Effectivement, est-ce qu'il y a une différence? Vous avez eu des anecdotes ou entendu parler de cette partition?
Non, la seule chose, c'est que les gens ont du mal à parler de la République tchèque. Enfin, c'est la seule chose dont je me suis rendu compte, moi. Peut-être on y reviendra plus tard avec... quand on parlera de la communication qu'on a eue avec les gens, mais où dans leur discours, c'est encore la Tchécoslovaquie. Mais sinon, nous, on est allé qu'à Prague, donc on n'a pas du tout été, on n'est pas du tout allé en Slovaquie, donc je peux pas, non, c'est pas, on sait, je sais pas, je peux pas, on s'est pas rendu.
Ça se décide comme ça, il faut faire des passeports quand même, il y a un minimum d'administratif à faire avec des enfants, deux enfants.
Oui, bon, ils sont pas quand même tout petits, ils ont 9 et 12 ans, donc déjà, ce sont des grands enfants. Oui, c'est vrai que moi, je me suis décidée un matin. Je suis allée au commissariat de police pour demander quels étaient les papiers, parce que je ne savais pas s'il fallait un visa ou... donc, il ne faut pas de visa, il faut simplement un passeport. Je suis allée donc cueillir mes enfants à la sortie de l'école. Je les ai emmenés chez le photographe en leur disant, on part à Prague, donc il faut des passeports. Enfin, en fait, un passeport, puisqu'ils sont, ils ont moins de 15 ans. Donc, on a fait un passeport pour tous les trois. Et je ne sais pas, ça prend... 4-5 jours, pas plus.
Ça a été bien accueilli, ce genre de décision, comme ça. C'est pour les enfants, ça leur disait pas grand-chose, Prague.
Ça leur disait pas grand-chose, mais bon, c'est vrai qu'ils sont habitués à voyager beaucoup avec nous, et jusqu'à maintenant, je crois qu'ils n'ont pas été trop déçus. Ils ont toujours suivi, ils ont toujours été ravis de nous suivre, je crois. Donc, ça n'a pas posé de problème. Non, ils ont quand même... Le petit inquiétude, c'était quand même où ça se trouve, parce que... Bon, c'est vrai qu'on a déplié la carte d'Europe et c'est vrai que ça faisait quand même loin. Alors on a essayé de les rassurer en leur disant qu'on voyagerait par autoroute, donc ce serait assez rapide. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même une grande distance.
Voilà, c'est très facile d'accès puisque l'autoroute va de Montpellier à Nuremberg, grosso modo.
Oui, même un peu plus loin, ça va presque à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque. Donc, en fait, Montpellier-Prague, même d'ici quelques... Je pense d'ici peut-être un an ou deux, ça se fera en autoroute.
Et vous avez mis combien de temps pour arriver à Prague ?
Je dirais 2 jours, mais alors combien on a roulé chaque jour ? C'est pas 7-8 heures, quelque chose comme ça ?
Oui, c'est relativement facile, en fait, donc c'est pas très...
C'est facile, et puis je pense que le voyage, ça fait partie du... Enfin, pour nous, on l'envisage comme ça, on est... La partie route, ça fait partie du voyage. Bon, on avait emmené un guide, donc de temps en temps, on essayait déjà d'apprendre entre nous quelques mots pour pas arriver complètement démunis. Bon, on essayait de... Non, ça fait partie du plaisir de voyager, ça.
D'accord. Et donc, vous voyagez avec votre voiture personnelle et tout, mais vous logez comment ? Comment ça se passe ? Vous descendez dans les hôtels, vous faites du camping à Toussaint, c'est peut-être un peu difficile, le camping.
On fait du camping souvent quand c'est l'été, mais là, non, il n'était pas question de faire du camping. Donc, comme on avait déjà un peu rodé la formule, on est allé dans des auberges de jeunesse. Parce que les auberges de jeunesse logent même les familles et même les gens qui ne sont plus tout jeunes. Donc j'avais écrit pour réserver, mais en fait, ils n'ont jamais reçu ma lettre. Mais bon, comme il y avait de la place, ça n'a pas posé de problème. Et c'est le moyen le plus économique, je crois.
Voilà, et relativement confortable.
Oui, bon, on avait une chambre pour tous les quatre. Bon, ça rappelle un peu, comment dire, dortoir de pensionnat. Enfin, nous, ça ne nous gêne pas du tout. Bon, au niveau des sanitaires, c'est tout à fait propre. Il y a des douches, des WC, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas un hôtel, c'est sûr. Mais ça a des charmes à côté que n'a pas un hôtel, peut-être.
On rencontre des gens ?
Oui, on rencontre des gens. Bon, là, ici, c'était... Il y avait surtout des groupes de jeunes, il y avait peu de familles en fait, il y avait beaucoup de groupes de jeunes et je crois qu'ils logeaient des jeunes qui allaient à une école proche. Donc c'est vrai qu'on a eu peu de contact avec eux parce que bon, ils avaient vraiment d'autres intérêts. D'abord ils allaient à l'école donc c'était vite fait. Mais c'est vrai qu'on rencontre quand même des gens, ne serait-ce qu'au petit déjeuner le matin, c'est agréable.
Ouais, non, si j'insiste, c'est pour un peu prouver qu'effectivement c'est à la portée de tout le monde et c'est finalement très facile de voyager si on prend la décision et qu'on dépasse la petite peur du départ.
Bon, oui, enfin, pour nous, c'est toujours un plaisir, ça nous pose... oui, je crois que c'est ça, il faut pas avoir peur des distances, d'une part, et puis de... je pense que quand on part en famille aussi, il faut bien penser qu'on... Enfin, nous, on l'envisage comme ça, on essaie de faire des... Disons, de passer les journées de manière à ce que chacun trouve son compte, que ce soit les petits ou nous, on fait un mélange un petit peu.
Très bien. Alors, première impression, on passe sur l'autoroute qui n'a peut-être pas énormément d'intérêt. Vous arrivez à Prague, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on ressent tout de suite là, comme ça, en arrivant.
Mais la première impression qu'on a eue, c'est vrai qu'on était un petit peu perdu d'abord, parce que l'auberge de jeunesse à laquelle on devait aller se trouve tout à fait dans la banlieue. Donc on est arrivé dans la banlieue d'une grande ville en fait. Et au début, on n'a rien vu du tout de ce qu'on s'attendait à voir à Prague, quoi. Donc c'était échangeur d'autoroutes, enfin pas d'autoroutes, mais des grandes routes, etc., des grands croisements. Il faisait nuit parce que, bon, il fait nuit plutôt qu'en France. Bon, ils ont la même heure, mais en fait, il y a un décalage. Et il y avait du brouillard, donc, et on était vraiment complètement perdus. On est arrivé un dimanche soir, donc il n'y avait personne dans la rue. De toute façon, dans les banlieues, je ne sais pas si on aurait trouvé quelqu'un avec qui on pouvait trouver une langue commune, donc c'était pas très évident. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé un car de police qui était stationné là. Donc, on a fait demi-tour. On s'est dit, la seule façon de trouver notre chemin, c'est de leur demander. Et bon, là, on s'est exprimé uniquement par signe parce qu'ils ne parlaient pas un mot de français ou d'anglais. Et nous, on ne parlait pas, évidemment, le tchèque. Donc, en fait, bon, l'endroit où on voulait se rendre, c'était assez compliqué à trouver. Donc, finalement, ils nous ont fait signe de les suivre. On est donc arrivé avec le car de flic.
Comité d'accueil, mais en toute sérénité.
Oui, ça, ils ont été. Bon, c'est vrai qu'ils ont été quand même très sympathiques parce qu'eux-mêmes avaient l'air assez perdus. D'ailleurs, ils discutaient beaucoup au-dessus de leur plan. Et bon, je pense que si on n'avait pas trouvé, on aurait tourné un bon bout de temps.
Et vous êtes arrivé donc à l'auberge de jeunesse de Prague.
Voilà. Enfin, il y en a plusieurs, mais donc celle qu'on avait choisie. Et bon, là, donc ils n'avaient pas reçu ma lettre de réservation, mais il y avait de la place, donc pas de problème.
Voilà, ça s'est bien passé finalement, malgré petite déception, sûrement un peu d'inquiétude quand on arrive dans une banlieue de grande ville comme ça, dans ces conditions-là.
Oui, puis c'est vrai que pour aller à Prague, bon, je me sentais un peu la responsabilité, parce que c'est quand même un peu moi qui avais poussé à ce voyage. Alors, bon, au départ, on est arrivé à une banlieue assez triste, faisait froid. Bon, mais le lendemain, tout ça, ça a été effacé parce qu'on a vraiment été à Prague.
Le doute s'installait dans quelle galère maman nous a emmenés, non, ça a été...
Non, parce que dès qu'on est entré à l'auberge jeunesse, ils ont trouvé ça très chouette. Et donc, de suite, ils étaient contents. Puis après, on est allé au restaurant, donc ça a arrangé tout.
La communication, alors justement, bon, avec la police, c'était un peu difficile. Pas de langue commune. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé les premiers jours? Et puis pendant le séjour
C'est vrai qu'au début, on a beaucoup communiqué par signe, parce que bon, ne serait-ce que pour prendre le bus, bon, on ne vend pas de tickets dans les bus, il faut se rendre à des genres de bureaux de tabac. Et donc, aux premières fois, on a pris le bus, nous, on était tout à fait honnêtes, donc on voulait payer. Alors, on a sorti une pièce, on a fait signe qu'on avait des sous. Bon, et puis on nous a fait comprendre qu'il ne fallait pas payer au chauffeur, donc comme il n'y avait aucun endroit où payer, on n'a pas payé. Donc, et puis bon, on communiquait par signe, et puis on voulait aller au centre-ville, donc centre, bon, ça se comprend dans toutes les langues, enfin je crois, enfin là ils ont compris, donc ils nous ont dit qu'il fallait prendre le métro, parce que métro, aussi par chance, ça se dit pareil. Et donc les premiers jours, ça s'est établi comme ça.
La langue la plus parlée là-bas en dehors du tchèque, c'est pas du tout le français, c'est pas très francophone comme en Roumanie par exemple.
Non, pas du tout. D'ailleurs, bon, mais le tchèque c'est pas une langue latine comme le roumain, c'est une langue slave. Et enfin, je crois que la langue qui servirait peut-être le plus, c'est l'allemand, je pense, parce que à chaque fois qu'on avait affaire, enfin qu'on demandait soit notre chemin, soit une information, les gens systématiquement nous répondaient en allemand. Enfin, moi je connais pas l'allemand, c'était peut-être très approximatif, mais jamais personne. Bon, nous on espérait pouvoir communiquer en anglais et les gens jamais répondaient directement en anglais. Enfin, si on leur demandait, après ils essayaient, mais c'était en allemand quoi, directement.
D'accord. Et cependant, d'après ce qu'on a pu voir hors antenne en préparant cette émission, il y a une présence assez forte américaine, McDonald's, des choses comme ça au niveau de la mode, tout au moins. Donc oui. l'anglais devrait être relativement parlé chez les jeunes.
Oui, c'est-à-dire que bon, c'est vrai qu'à Prague, c'est quand même une petite ville et il y a 10 ou 12 McDonald's. C'est vrai que c'est vraiment très quadrillé. Hein. Parce que même c'est vraiment très. Et bon, nous, par exemple, pour changer de l'argent, on a été dans des espèces des antennes bancaires en quelque sorte, des guichets qui aussi ça pullule, il y en a partout. Bon, et là, quand on demande aux jeunes, ce sont en général des jeunes qui tiennent ça. Si on leur demande s'ils parlent anglais, bon là, pas de problème, ils parlent anglais. Ils parlent peut-être aussi, d'ailleurs, très bien allemand ou français, je crois pas, non.
Thank you.
la Moldo ou la Moldao, comme on veut, de Smetana, ça s'imposait puisqu'on fait un petit tour à Prague et que c'est une rivière ou un fleuve, je ne sais pas, qui partage Prague. Comment ça se situe donc? C'est grand, la Moldo? C'est très large.
C'est grand, au standard saint-africain, c'est grand, oui.
Ouais, c'est plus grand que la Sorgue, quoi, c'est clair.
Voilà, oui, enfin, oui, c'est une rivière qui est importante. Enfin,
je veux dire, il y a du trafic dessus, il y a des péniches, etc.
Oui, il y a du trafic de péniches, oui, mais c'est surtout important quand on est touriste, du point de vue touristique, parce qu'évidemment, ils ont construit des ponts sur la rivière, dont le pont Charles qui est le plus célèbre. Et bon, c'est vrai que c'est des endroits à visiter, c'est très joli.
Donc, faisons la visite. Si tu veux nous servir de guide un peu dans Prague, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de c'est plat, il y a une colline, il y a des collines. Comment ça se situe Prague? J'ai aucune idée absolument.
C'est une ville qui est agréable parce que c'est vrai que c'est assez petit, donc on peut facilement à pied visiter à peu près la vieille ville, ce qui est la partie la plus intéressante, je crois. Enfin, quand on veut faire du tourisme, je ne parle pas après du reste, ça se visite assez facilement à pied. Bon, c'est quand même assez étendu, mais ce n'est pas un problème. Donc, on peut passer facilement d'une rive sur l'autre, parce qu'en fait, c'est construit donc sur les deux rives de la rivière, évidemment. Et le centre-ville lui-même, c'est assez plat, mais tout autour, il y a quelques collines. Donc, c'est vrai que ça donne un panorama très joli. Par exemple, quand on monte visiter le château, donc, qui est situé sur une colline, on a une vue sur la ville qui s'étend au pied du château, sur toute la vieille ville. Et je trouve que ce qui est très, très marquant et qui fait de Prague une ville exceptionnelle, moi, je n'ai pas été évidemment dans toutes les villes européennes, mais beaucoup de villes que j'ai visitées, par rapport à beaucoup de villes que j'ai visitées, c'est que. Il y a certaines villes, on va visiter, il y a 3-4 choses à voir, et puis après, c'est à peu près tout. Tandis qu'à Prague, nous, on s'est promené, on est resté donc 6 jours, et on s'est énormément promené dans la vieille ville, et on est jamais lassé, parce qu'il y a partout, il y a des maisons à découvrir. C'est pour ça, je crois que c'est vraiment tout à fait exceptionnel, ça.
Alors, ces maisons à découvrir, il y a une architecture intéressante. Tu peux nous en dire plus là-dessus?
Oui, ben la plupart, ce sont des maisons qui ont été construites par des nobles au 18e siècle, donc c'est le style tout à fait baroque qu'on peut imaginer, style empire austro-hongrois. Ça ressemble à des énormes gâteaux
avec de la chantilly,
voilà. Trucs comme ça. Ce qui sont, c'est bon, les murs sont peints en rose, en vert. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu presque rococo comme style, un peu. Mais Prague, c'est un endroit où ça choque pas du tout. Enfin, c'est très beau, très joli à voir, je trouve.
Bon, donc un charme particulier, voilà. de cette ville. La vieille ville est importante. Il y a des petites ruelles. Comment ça se situe?
Oui, enfin, il y a plusieurs quartiers, même dans la vieille ville. Il y a le quartier du château. Donc le château, c'est d'ailleurs là où siège le gouvernement. Et il y a plein de petites rues qui mènent au château, et c'est là où se trouvent la plupart des ambassades étrangères, donc dans évidemment des très belles demeures. Et il y a le quartier du château, il y a la vieille ville proprement dite, et là c'est vrai qu'on peut se promener, il y a plein de ruelles, et c'est vrai qu'à chaque coin de rue, on se retourne de tous les côtés, tellement il y a à voir partout. Certains murs qui sont ornés de peintures. Bon, c'est vrai que c'est tout à fait rétro, tout à fait. Tout est ancien. Enfin, c'est vrai que c'est un charme qui est très rétro quand même. Mais je crois qu'on s'y laisse prendre, même si on n'est pas forcément traversé dans ce style. Et puis, il y a aussi ce qu'ils appellent la Malastrana, qui est aussi tout un réseau de petites ruelles. Où on peut se promener, particulièrement le soir, c'est très agréable parce qu'il n'y a pas de l'éclairage électrique, c'est tout souterrain. Donc lorsqu'on se promène dans la ville, on a l'impression vraiment de faire un voyage 2 siècles en arrière en Europe centrale. Donc c'est vraiment très très particulier.
Il y a un côté décor de film un peu.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, le film Amadeus de Miloš Forman a été en partie tourné à Prague, dans la vieille ville.
Et est-ce qu'il y a, malgré le froid, parce que je suppose même qu'à Toussaint, il ne fait pas très très chaud là-bas, est-ce qu'il y a de la vie dans les rues? Est-ce qu'il y a des petits métiers? Est-ce que ça grouille ou les gens sont un peu terrés chez eux?
Non, il y a beaucoup de monde dans la rue et ça nous a beaucoup surpris parce que c'est vrai qu'il faisait très très froid. Le soir, à partir de 5 heures, ça tournait autour des zéros. Et bon, mais nous, on avait prévu le froid, donc on n'a pas été surpris. On était habillés tout à fait pour, c'était pas un problème. Mais c'est vrai que ça nous a beaucoup surpris de voir la quantité de camelots qu'il y avait dans la rue et qui, eux, par contre, avaient l'air d'avoir très froid parce que nous, bon, en circulant, ça allait. Mais pour les jeunes qui étaient là, je pense que ça devait être très difficile. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de monde. C'est vrai que ça grouille carrément. Et en fait, on s'est félicité d'être venu là à Toussaint parce que je pense qu'en été, ça doit être absolument impraticable. Parce que déjà là, malgré le froid, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans les rues.
Et beaucoup de touristes ?
Alors, il y a beaucoup de touristes, beaucoup d'Allemands, des Français aussi, mais beaucoup d'Allemands et de Français, oui.
Et ces petits magasins ou ces étals, ils vendent quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a de l'artisanat, il y a de la nourriture, qu'est-ce qu'ils vendent ?
Oui, il y a de l'artisanat. Enfin, disons qu'il y a... Bon, l'artisanat, le cas, je pense que c'est tous des petits objets en bois, mais en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas des choses qui sont fabriquées de manière artisanale. Il y a beaucoup de... Parce qu'il y avait plusieurs magasins qui vendaient exactement les mêmes objets. Je pense que c'était bon, avec la même marque, etc. C'était donc des chaînes de magasins. Ou une chaîne, du moins, qui vendait donc tous ces objets en bois. Et certains camelots vendaient les mêmes articles, mais ce n'était pas fabriqué artisanalement, je ne crois pas. Par contre, il y avait beaucoup... il y avait énormément de marchands de marionnettes. Bon, mais ça, peut-être, c'était fabriqué artisanalement. Et sur la place, la grande place de la vieille ville, il y avait quelques artisans... qui, je pense, avaient compris qu'ils avaient un fonds de commerce intéressant, parce que, par exemple, il y avait un jeune qui avait une forge, qui était donc installée sur la place, qui faisait toutes sortes d'objets en métal. Et évidemment, ça, il y avait un attroupement autour de lui, parce que c'est sûr qu'on ne voit pas souvent des forgerons dans la rue. Et où il y avait aussi des gens qui travaillaient le cuir, etc. Et je pense que, bon, c'était... Bon, ils avaient compris que là, ils avaient un truc pour attirer les touristes, donc ça marchait bien.
Donc, très très rapidement, les Pragois, je suppose, c'est comme ça qu'on les appelle,
ouais.
Compris, enfin pour nous en tout cas, ont compris que le tourisme était un apport très important au niveau économique et ils ont assez vite compris le côté business, petit trafic ou choses comme ça. On sent ce côté déjà place touristique à Prague où les gens sont attendus et un petit peu... Je dirais pas arnaqué, mais enfin, disons qu'on essaye de vous soutirer vos devises ou comment ça se passe avec les gens ?
Oui, bon, arnaqué, c'est peut-être pas le mot, mais c'est vrai qu'il y a énormément, énormément de camelots. Évidemment, ils sont situés, par exemple, sur le pont Charles dont je parlais tout à l'heure. Il y en a tout le long et ils savent évidemment où attendre les touristes. Mais et c'est vrai qu'ils ont appris. On se rend compte qu'ils ont appris très vite parce que, par exemple, ils comprennent très vite de quel pays on est originaire et de suite ils savent dire le prix en français, en allemand. Mais je dirais pas que c'est de l'arnaque parce que c'est toujours fait de manière très. C'est jamais fait de manière agressive. C'est de bonne guerre, hein,
c'est
pareil
du commerce,
partout.
Ouais. Absolument. Mais on sent que c'est très présent. Ça a été vite, quoi, très vite.
Ouais.
D'accord. Au niveau des monuments en dehors du château, et je crois qu'il y a une très belle cathédrale aussi dans la cour du château, c'est très proche.
Oui, oui, c'est quasiment, enfin, ça fait partie du château d'ailleurs, c'est la cathédrale Saint-Guy. Bon, c'est une cathédrale gothique bon, qui n'a rien vraiment de surprenant quoi, par rapport aux cathédrales gothiques qu'on a en France, à part qu'elle est évidemment plus petite puisqu'elle est dans l'enceinte du château. À part ça, c'est vrai que Prague, ça s'appelle, je crois qu'ils l'appellent la ville aux 100 clochers. Parce que bon, il y a énormément d'églises et c'est vrai. Ce qui est surprenant, c'est que les monuments sont vraiment les uns sur les autres. C'est-à-dire que il y a des églises qui sont insérées entre des immeubles carrément. En fait, et parfois même, ça manque un peu de recul parce que il y a tellement, tellement de monuments les uns contre les autres qu'on n'arrive pas à bien voir les caractéristiques de chacun, en fait.
Donc, vous avez pas mal visité des musées éventuellement, peut-être, non ?
Non, on n'a pas visité le musée parce que... Bon, on a surtout beaucoup déambulé, c'est vrai. Et on n'a pas visité le musée parce que, comme nous étions avec les enfants, ça faisait... Bon, comme on avait peu de temps à passer à Prague, je pense que si on devait y retourner, évidemment, on visiterait certainement des musées ou d'autres choses. Mais là, on a... Bon, pour une première fois, c'était peut-être un peu...
L'impression de la rue, c'était ça qui était important. Vous avez visité une synagogue, je crois, qui est belle. C'est une belle synagogue, celle de Prague ?
Ben, je dois dire que c'est la première synagogue que j'ai citée. Je ne peux pas vraiment comparer. Mais c'est-à-dire que dans le quartier juif, il y a 6 ou 7 synagogues, je crois. Et donc, nous, on a été se promener dans la ville juive, quoi, qui était en fait un quartier de Prague. Et donc, on est entré dans la synagogue. Et c'est une petite synagogue, hein, mais je ne sais pas, je ne peux pas vraiment comparer. Et par contre, ce qui était assez intéressant, c'est qu'il y avait une autre synagogue qui était transformée en musée, où étaient exposés des dessins des enfants qui étaient au camp de Térézine, pas très loin de Prague, où beaucoup de Pragois juifs avaient été déportés. Donc ça avait un côté intéressant, dans la mesure où nous, ça nous a permis, avec nos enfants, d'évoquer la déportation des juifs. Et bon, ça c'était intéressant, parce que c'est vrai qu'on en a parlé à propos des dessins, à propos des enfants, évidemment ça les a beaucoup marqués, et donc c'était une occasion pour nous d'échanger sur ce problème, quoi.
Et je crois que les noms des gens qui ont été déportés étaient marqués un peu partout, donc c'était assez énorme, puisque je crois qu'il y a eu 78 000 juifs qui ont été déportés, non ?
Oui, 70 000 ou quelque chose. Ça, c'est dans une autre synagogue qui était en réfection, où en effet, ils avaient entrepris de marquer sur les murs de la synagogue les noms de tous les juifs de Prague qui avaient été déportés. Et c'était assez compliqué parce qu'en fait, au cours de l'histoire de la République tchèque ou de la Tchécoslovaquie, ces noms avaient été effacés à l'époque de la guerre des Six Jours, en 67, parce qu'évidemment, le gouvernement d'alors soutenait les Palestiniens, sous prétexte de... Enfin, c'était assez expliqué assez clairement, et sous prétexte de rénovation, ils avaient effacé les noms. Et donc là, ils étaient en train de réécrire tous les noms. Donc évidemment, ça représente... Mais c'est vrai que symboliquement, c'est très émouvant. Et ça donne encore une fois, bon, pour nous qui voyageons avec nos enfants, ça nous a donné encore l'occasion d'expliquer un petit peu tout ça.
Mande hasta savo ichi mange oi mandra nacem o patsufa ma demanda chai mu ka ci dai ka bene ai condicele un bai un bai un babai ali ali aide un bai un bai un babai ali ali aide un bai un bai un babai ali ali aide un bai un bai un babai ali ali aide opa tis 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 tercele dale mandale muta dalla vatere amaru java che fai tu rome cale indale mandale esira chakace o pazzupa ma demande c'hai e muca ci dai a vere hai condicele un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai Già mai cutelo ilo già su micele dale mandale anu moti azzare già mai cutelo ilo già su micele dale mandale anu moti azzare mande c'hai muca ci dai da bere hai condicere un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai ai 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 un bai un bai un babai.
On vous invite un petit tour à Prague, à faire un petit tour à Prague, donc en République tchèque, et c'est Colette qui nous sert de guide. Tout Français qui se respecte se pose la question, quand il part à l'étranger, qu'est-ce qu'on mange là-bas ? Alors ça, c'est très très important, la nourriture, est-ce qu'il y a beaucoup de différences, nourriture, boisson, quelles sont les spécialités que vous avez pu essayer ?
La nourriture, c'était nourrissant, mais ça tombait bien.
Il fait froid, donc.
Parce qu'il faisait très froid, on marchait toute la journée, donc on avait droit à bien se restaurer. Mais ce qui nous a quand même un peu frappé, bon, nous on allait dans les restaurants bon marché, hein, et ce qui nous a frappé, c'est qu'on retrouvait quasiment tout le temps le même menu. Hein, les desserts, il y avait trois desserts, c'était crêpe à la chantilly, glace à la chantilly ou coupe de fruits à la chantilly.
Beaucoup de chantilly.
Voilà.
D'accord.
Et sinon, il y a beaucoup de plats genre ragoût avec beaucoup de sauce, mouton, porc, etc. Des boulettes de pain ou de pommes de terre, un peu comme on trouve en Allemagne, je crois. Et des choses qui vraiment tiennent bien au ventre. Et alors tout ça, c'est arrosé avec de la pivo, c'est-à-dire la bière, qui est bon marché, qui est bonne, qui est forte. Et donc on en boit facilement des grands verres, un demi-litre ou deux, selon. Et c'est vraiment la nourriture qui tient au ventre, on peut dire.
D'accord.
Mais c'est ce qu'il nous fallait là, parce qu'il faisait froid.
Aucun problème pour trouver de la nourriture, comme dans certains pays. Est-ce qu'on sent une certaine pénurie au niveau de la nourriture ou pas du tout?
Oh ben, pour ce qu'on en a vu, nous, à Prague, bon, c'est vrai qu'on est allé au restaurant bon, tous les jours, parce qu'un repas, disons, en moyenne, disons, bon, le midi, on mangeait un petit peu moins, le soir, davantage, mais en moyenne, par personne, ça tourne autour de 30 francs le repas. Donc, ça valait pas vraiment le coup de se priver d'aller au restaurant. Donc, on n'a pas du tout eu l'impression de pénurie, hein, mais je ne sais pas après comment vivent les gens vraiment.
Les magasins, il y a beaucoup de produits à acheter dans les magasins ou...
Oui, il y a énormément de produits, mais je pense que quand même, les produits en vente sont réservés à une élite, parce que je ne me souviens plus exactement, j'avais lu un papier sur le salaire moyen d'un tchèque, et on s'était fait la réflexion qu'en fait, il y avait très peu de gens qui devaient pouvoir acheter. Je ne parle pas de la nourriture, parce que la nourriture, c'était relativement bon marché. Il y a beaucoup de charcuterie, beaucoup de produits fumés, bon, et la bière, tout ça, c'est bon marché, mais par exemple, au niveau des vêtements, par exemple, à Prague, on est allé dans un superbe magasin Bata, donc qui est revenu à Prague en fanfare, etc., qui a construit un superbe magasin. Mais le prix des articles en vente, c'est le même prix à peu près qu'en France. Donc, je dis peut-être des bêtises, mais je crois me souvenir que le salaire moyen, c'était entre 1000 et 1500 francs. Donc, je pense qu'il y a très peu de gens qui doivent vraiment pouvoir s'acheter les produits qui sont en vente dans ces magasins. Enfin, à Prague, je parle, hein, parce qu'on n'est pas allé ailleurs.
Donc. Bien sûr. Sinon, est-ce que c'est perceptible dans les rues de Prague, les changements politiques, l'économie de marché, etc. Est-ce qu'on sent encore une ancienne présence communiste qui est quand même, que l'on perçoit, ou plus du tout, ça y est, c'est effacé? Et au niveau politique, comment vous avez pu percevoir? Parce que, bon,
oui,
quand
nous,
on
ne
parle pas la langue, c'est difficile.
Oui, puis bon, on n'est pas resté très longtemps. Il y a une chose que, quand même, enfin plusieurs choses qu'on a remarquées. C'est vrai que c'est dans les magasins, aussi bien dans les magasins que dans les restaurants. Enfin, les restaurants, on est allé surtout des genres brasseries, quoi. Bon, c'est très agréable, d'ailleurs très sympathique, mais on a constaté dans les magasins que il n'y a pas vraiment un sourire vers le client. Et ça, ça nous a paru assez étrange, parce qu'on a l'impression même que jamais les yeux se croisent entre par exemple, à la caisse. Bon, en France, quand on va faire ses courses à prix unique, il y a quand même un sourire. Et là, on avait du mal à croiser le regard des gens. Ça nous a paru... Et bon, c'était relativement... On l'a vraiment remarqué, parce que je crois que ça arrivait très souvent. Et ça nous mettait un peu mal à l'aise. Ça faisait une impression bizarre. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Ça,
une vieille habitude?
Je ne sais pas. Mais ça faisait assez... Enfin, pour nous, c'était assez étrange, ça. Parce que bon, en France, on a l'habitude, on fait un sourire, on dit merci, mais là... Pas vraiment. Et bon, autre chose, je ne sais pas non plus si c'est, disons, des séquelles du communisme, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. On a remarqué aussi la présence très forte de la police. Alors que ce soit dans les magasins, même dans les tout petits magasins de souvenirs, il y avait souvent alors je ne sais pas si c'était un policier ou quoi, enfin, un genre de vigile armé avec pistolet, gros bâton, etc. Et dans les rues, on a souvent entendu la sirène. Alors, la sirène des voitures de police, c'est une sirène à l'américaine. Ça fait un bruit pas possible. Et alors, bon, c'est vrai que là non plus, on n'est pas tellement habitué. Et dès que la sirène retentit, tout le monde essaie de se trouver une place pour se garer sur le trottoir. Alors, je ne sais pas si on peut attribuer ça à une vieille habitude aussi, la peur de la police, je ne sais pas, mais... Bon, c'est que des impressions qu'on a recueillies, parce qu'en restant 6 jours comme ça dans une ville, on peut pas vraiment analyser, on n'analyse pas.
Bien sûr. Et au niveau politique, vous n'avez pas pu absolument vous rendre compte, savoir ce qui se passait. Il y avait des manifestations, il y avait des choses comme ça, pro, Havel ou...
Oui, c'est-à-dire
opposer.
Ouais, c'est-à-dire qu'on s'est on est tombé le jour de le 28 octobre, qui est le jour de la fête nationale. Donc on fête la création de la République tchécoslovaque, donc qui a été créée en 1918. Enfin, qui a une vie assez courte, parce qu'après quand la guerre en 39, donc ça a été dissous, etc. Et puis maintenant, c'est plus que la République tchèque. Mais enfin, apparemment, c'est toujours une fête nationale. Et donc, il y avait un immense rassemblement sur la place Venceslas. Alors, on a essayé de se renseigner un peu. Enfin, moi, j'étais très curieuse de savoir ce que c'était. Et donc, j'ai demandé à plusieurs personnes. Bon, d'abord, j'ai essayé de trouver des personnes qui parlaient anglais, puisque je pensais que... Enfin, pour moi, c'était la langue la plus facile pour communiquer. Et bon, il y a des gens à qui j'ai posé la question et qui n'avaient pas l'air de savoir ce que c'était que le 28 octobre. Bon, je ne sais pas si en France, il y a des gens qui ne sauraient pas répondre sur le 14 juillet, peut-être. Et puis, donc, on a réussi à communiquer comme avec certaines personnes. Et en fait, la manifestation, c'est une manifestation. On nous a expliqué que c'était une manifestation contre Václav Havel, d'une part. Et d'autre part, il y avait aussi un endroit où il y avait des gerbes de fleurs qui étaient déposées et des bougies qui avaient été allumées. Donc là aussi, on a demandé quelques renseignements pour savoir... Enfin, on se doutait un petit peu de quoi il s'agissait, mais... Et donc, on a réussi à trouver des gens qui parlaient anglais. Donc, ils nous ont dit que ça, c'était la commémoration des gens qui étaient morts soit pendant le printemps de Prague, soit pendant la révolution de velours. Donc, je ne sais pas exactement... C'est difficile, en fait, de dire qu'est-ce qu'ils fêtaient, parce que c'était le 28 octobre, donc c'était un jour férié, c'était la fête nationale. Et est-ce que ce jour-là, chacun en profite pour, commémorer un peu ce qu'il a envie de commémorer ou pour manifester, je ne sais pas trop. On n'a pas pu vraiment communiquer avec les gens. Moi, j'en mourais d'envie, mais j'ai réussi à parler avec 2-3 personnes, c'est tout.
Quand on voyage en famille avec des enfants, c'est un excellent passeport. En général, il y a des contacts qui se passent entre enfants d'adultes à enfants ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez eu des anecdotes ou quelque chose qui s'est passé? Est-ce que vos enfants ont rencontré des enfants tchèques, par exemple?
Non, parce que je crois que c'est pas, encore une fois, c'est parce qu'on a fait un séjour très court et puis en fait, nous-mêmes, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer de Tchèques non plus. Mais par contre, je crois que c'est un bon passeport pour les camelots qui sont là. Parce qu'évidemment, les enfants sont beaucoup plus attirés que nous, du moins ils résistent beaucoup moins. Et en fait, bon, ils discutent et donc ils arrivent finalement à nous faire acheter quelquefois ce qu'on n'aurait pas forcément voulu acheter. Mais enfin bon, ça c'est pas un problème. Mais sinon, c'est vrai que... Bon, nous, on n'a pas rencontré... Non, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment eu des rapports très intenses avec les gens, mais... Bon, je pense qu'on y retournera pour approfondir.
Oui, mais j'ai l'impression que c'est une bonne expérience. Toujours les enfants, je crois que vous êtes allé dans une fête foraine. Alors, c'est toujours intéressant. Ça, c'est comme... Il est intéressant d'aller au cinéma ou d'aller à la messe, pourquoi pas, ou dans une fête foraine quand on est à l'étranger, parce qu'il y a des ambiances un peu particulières.
Oui, ben c'est ça. Bon, c'est vrai qu'on aime beaucoup faire ça, nous, quand on voyage. Bon, là, on est allé au cinéma aussi. On est allé à la fête parce que on aime aller dans des endroits où on ne va pas rencontrer forcément des touristes, mais où finalement, on va se mêler aux gens, quoi. Même si c'est très léger, parce qu'évidemment, on ne peut pas communiquer avec les gens, mais quand même, on a l'impression de partager quelques instants de leur vie presque quotidienne, quoi. Et donc là, en fait, on était en route pour aller visiter un château. Et donc, on attendait un tramway qui mettait beaucoup de temps à venir. Et on s'est aperçu qu'on était à côté de ce qui s'appelait Luna Park. Mais bon, c'est pas du tout le Disneyland. Hein. Enfin, c'est une fête foraine, oui. C'était assez étrange parce que c'était les manèges qui... On avait l'impression que ça datait vraiment d'avant la guerre. Et puis, c'était très, très bon marché. Donc, c'est vrai que nous, on s'est régalés, quoi. Tout simplement, bon. Aussi bien que... Si on avait été à Montpellier ou ailleurs.
Et vous êtes allé au cinéma, vous êtes allé voir quoi là?
Eh bien, on est allé voir Jurassic Park. Et bon, c'est vrai que dans notre déambulation, il y a quand même un jour où on a flanché parce qu'il faisait très froid, on était vraiment fatigués. Et donc, bon, c'est vrai que ça nous intéressait assez de voir justement qu'est-ce qui était au programme. Bon, et en fait, on a été un peu déçus parce qu'il y avait au cinéma, bon, c'était Jurassic Park, d'ailleurs, qui était présent partout, parce que les dinosaures, les t-shirts, il y en avait partout. Donc ça, évidemment, ça a été un côté un peu décevant, quoi, parce qu'entre les McDonald's et Jurassic Park, on s'est dit, bon, les Américains sont partout. Et bon, mais c'était quand même une expérience assez intéressante, parce que bon, là encore, c'est vrai que c'était très bon marché, donc peut-être ça a aussi influencé notre décision. Et c'est vrai que ça nous a permis de nous reposer pendant 2 heures, et les enfants étaient ravis. La seule chose, c'est qu'on avait Jurassic Park en anglais, avec des sous-titres tchèques, donc... C'était pas... Bon, mais je pense que par rapport au film, ça suffisait.
Oui, les dialogues n'ont peut-être pas une importance vitale. Est-ce que pour conclure ce petit tour, puisque une semaine à Prague, c'est vrai que c'est difficile, c'est simplement des impressions, une carte postale un peu, hein. Est-ce qu'il y aurait quelques conseils ou des choses si certains auditeurs ont envie de se rendre donc en République tchèque et particulièrement à Prague ? Est-ce qu'il y a des petits conseils à donner comme ça, pratiques ou...
Oui, peut-être. Enfin, ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est vraiment, enfin, une ville vraiment exceptionnelle. Enfin, moi, on a tous les quatre, on a vraiment été ravis de notre séjour. Je pense que je peux parler pour tout le monde.
Mmh. Et le coup de cœur, c'est le coup de cœur, c'est bon.
Oui, je crois. Mmh. Et quel conseil on pourrait donner ? Bah, d'abord, dire que finalement, c'est pas si loin, parce que nous, c'est vrai qu'on s'est décidé tout à fait au dernier moment, et puis ça a très bien marché. Si on y va en hiver, il faut s'habiller parce qu'il fait froid. Et peut-être un conseil que je donnerais, c'est par rapport au change de la monnaie. Parce que je crois que nous, au début, on s'est fait peut-être un petit peu avoir. Parce que je pense d'abord qu'il faut savoir que si on a une carte bancaire, on peut retirer directement de l'argent sur son compte. Et donc, on n'a pas à changer. Et on perd beaucoup moins d'argent parce qu'à chaque fois qu'on fait des tractations, on perd des sous, c'est connu. Et donc, peut-être ça, ce serait un petit conseil à donner, c'est ça. Et sinon, je crois que... Bon, il faut avoir des bonnes jambes si on veut vraiment profiter de la ville, parce que, enfin, nous on a beaucoup apprécié, parce qu'on a, c'est vrai qu'on a beaucoup beaucoup marché, mais c'est tellement agréable qu'on n'a pas, on n'a pas vraiment senti la fatigue. Et puis bon, toujours une petite bière ou un petit chocolat chaud pour se remettre quand on en a besoin, donc c'est parfait.
Micro ouvert.
À l'histoire.